Bien, on va commencer si vous voulez. D'abord, la parole à Madame Racle, vice-présidente du CEVU de Bordeaux 2, Victor Segalen, et qui va nous souhaiter la bienvenue. Ensuite, le doyen de la faculté de pharmacie. Ensuite, Madame Anne Boyer pour le ministère. Et enfin, votre serviteur, et puis Albert-Claude Benamou.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir au sein de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2 pour ce colloque Internet et pédagogie des sciences de la santé et du sport. Le président de l'université, le professeur Manuel Thunon de Lara, ne pouvait être là aujourd'hui et donc il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec un grand plaisir. Tant le thème que vous allez développer aujourd'hui et demain m'intéresse au plus haut point. Bien sûr, parce que effectivement, je suis personnellement chargée de la formation dans cet établissement. Alors, notre université compte environ 18 000 étudiants en formation initiale et continue dans les domaines de la santé, de la biologie, du sport et des sciences de l'homme. Et donc, l'utilisation du numérique dans l'enseignement est un axe stratégique tout à fait prioritaire que nous souhaitons véritablement développer. Car dans le domaine de la formation initiale, tout d'abord, ou sous la pression d'effectifs très très importants, considérables, notamment dans le secteur des formations de la santé, nous sommes amenés à réfléchir à de nouveaux modes d'enseignement en dehors du présentiel, mais également dans le cadre de partenariats de plus en plus importants avec d'autres pays, dans le cadre de formation et de codiplomation, dans le cadre d'Erasmus Mundus notamment, où là aussi l'enseignement à distance devient en quelque sorte prioritaire. Également dans le domaine de la formation continue, où les obligations relatives à la formation tout au long de la vie dans le secteur médical nous ont incité également à créer un service spécifique de formation continue, où l'enseignement à distance, également l'enseignement avec le numérique, prendra une place tout à fait importante. Alors, bien entendu, nous avons beaucoup de projets, mais nous avons aussi des compétences, notamment actuellement à l'Institut de santé publique, qui forme déjà des centaines d'étudiants chaque année, des étudiants francophones notamment, par l'intermédiaire d'un enseignement à distance, utilisant le numérique d'une manière tout à fait poussée et effectivement d'une manière tout à fait en pointe. Alors nous venons également, dans le cadre des nouveaux référentiels des activités des enseignants, de prendre des mesures qui essaient effectivement d'accompagner les enseignants vers l'utilisation du numérique, en rendant possible l'intégration des heures d'enseignement à distance dans les services. Et nous allons lancer un appel à projet annuel auprès des enseignants, donc pour permettre la création de projets d'enseignement en numérique. Alors, nous avons également depuis plusieurs années, je dirais, une plateforme d'enseignement C2I, de certification qui est aussi dans le secteur de la santé est tout à fait en pointe et sur laquelle nous souhaitons nous appuyer également pour lancer également tout un programme de formation à l'attention de nos enseignants-chercheurs de manière à les accompagner vers ces nouveaux modes d'enseignement. Alors, bien entendu, tout ça constitue, je dirais, un ensemble d'actions que nous souhaitons mener qui montre que dans notre université, Victor Segalen Bordeaux 2, l'enseignement avec le numérique est véritablement une priorité. Mais aussi, elle nous interroge sur nos nouveaux modes et sur les nouveaux modes de pédagogie que sollicite l'enseignement avec le numérique. Et c'est pour cela que je suis particulièrement ravie, et que cela tombe à pic, que votre colloque soit organisé dans notre établissement, puisque Je suis tout à fait heureuse que ce partage d'expérience nous permette, nous aussi, d'avancer dans cette nouvelle direction. Je vous remercie.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc d'abord, bienvenue à Bordeaux. Alors je vous rassure, pour ceux qui sont arrivés hier, la pluie devrait s'arrêter. C'est vrai que ça n'a pas forcément contribué à rendre l'accueil forcément très convivial, mais là-dessus, c'est des impondérables sur lesquels on ne peut pas intervenir. Bienvenue à l'université aussi Bordeaux-Ségalène, Madame la vice-présidente, vous la présentez. Bienvenue à ce congrès IP3S. Françoise Galland, en discutant hier, me rappelait, je le dis d'autant plus facilement que c'est elle qui me l'a dit, les raisons qui ont fait que Bordeaux a été choisi, et puis aussi que l'UFR des sciences pharmaceutiques, une UFR des sciences pharmaceutiques pour la première fois, donc pilote et pilote pour ce congrès IP3S. Donc je crois que les raisons, Madame Rask en a aussi parlé, nous sommes assez engagés sur le numérique. C'est une université où les trois composantes de l'UNF3S, c'est-à-dire la santé, donc médecine, odontologie, pharmacie, les STAPS aussi sont représentés, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les universités. Et puis aussi parce que, une des raisons sans doute, je dirais, connexes, c'est que nous avions travaillé en partenariat avec les UFR odontologie, les UFR médecine, pour une mise en place d'une première année commune des études de santé dès l'an dernier. Ça s'était, je crois, très bien passé. Donc je crois aussi que c'est une raison connexe qui a fait que l'université Bordeaux 2 a été choisie et que, en particulier, l'UFR de pharmacie a été désignée, non pas auto-désignée, mais on l'a désignée et nous y avons accepté comme pilote de ce congrès. Donc, bienvenue à tous. Le programme, vous l'avez. Globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une première journée aujourd'hui plénière pour toutes les filières de l'UNF3S. Et puis, demain, samedi, des sessions spécifiques à chacune des quatre filières, donc médecine, odontologie, pharmacie et STAPS. Voilà. Donc bienvenue encore à tous à Bordeaux. Nous espérons vous avoir tout fait ou le maximum pour que ce congrès se passe dans des très bonnes conditions. Donc bienvenue à tous.
Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous avez eu récemment la curiosité d'aller sur le portail fédérateur des universités numériques, mais si tel est le cas, vous avez pu constater qu'il y avait plus de 20 000 ressources accessibles librement aux étudiants et aux enseignants. Si une telle offre est actuellement disponible, c'est grâce à l'action efficace et véritablement convaincue des 7 universités numériques thématiques, ces fameuses UNT, qui depuis 2004, maintenant pour les plus anciennes, recense, indexe, valorise, diffuse, organise le patrimoine pédagogique numérique à l'échelle nationale, chacune dans son domaine disciplinaire. De plus, les UNT identifient les besoins en termes de contenu et ainsi motivent et organisent la production collaborative, et ça c'est important, de ressources numériques pertinentes et validées scientifiquement. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous parce que l'UNF3S, qui regroupe maintenant les 4 filières de la santé et du sport, se positionne comme un acteur à la fois dynamique et incontournable du développement de la pédagogie numérique, non seulement en France, mais bien sûr à l'étranger. Avec les interventions qui sont prévues dans le programme qui vient d'être évoqué, on voit autour de la pédagogie des TIS, des serious games, etc., que le programme que vous proposez pour cette première journée de colloque illustre pleinement cette volonté de s'inscrire dans la pédagogie numérique. Je rappellerai aussi l'animation éditoriale de Canalu Santé, qui est un succès manifeste et incontestable. Il n'y a qu'à regarder les scores de consultations et de visites. J'ai eu la curiosité ce matin, puisque je suis arrivée un peu en avance, de regarder les statistiques de consultations. Il y a eu plus de 31 000 visites sur les ressources santé de Canalu Santé au mois de septembre 2010. Alors bien sûr, ce sont des accès pas uniquement étudiants et enseignants, mais aussi grand public, mais ça positionne Canalus Santé en deuxième place des consultations juste derrière l'UTLS, l'Université de tous les savoirs. Alors depuis que les UNT ont été créées, le paysage numérique s'est transformé. Le numérique est entré petit à petit dans les pratiques pédagogiques des enseignants. De nouvelles technologies sont apparues. On parle maintenant de réseaux sociaux, de serious games, de portfolios. Le contexte universitaire a aussi changé. Il y a l'autonomie des universités, bien sûr, la mise en place du L1 Santé qui vous a concerné directement. Il est donc maintenant devenu nécessaire de faire un bilan d'étape sur l'usage des ressources des universités numériques thématiques dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la nécessaire évolution qu'il va falloir mettre en place des UNT. C'est pourquoi, comme vous le savez sans doute, nous avons lancé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche une étude sur les usages des ressources numériques pédagogiques produites par les UNT. Cette étude a été confiée à la société Occurrence. Elle est en cours depuis quelques semaines maintenant. Et l'UNF3S a été particulièrement impliqué dans la première phase, comme les 6 autres UNT, puisque nous avons réalisé un premier point sur l'histoire de chacune des UNT, ses spécificités, ses richesses, ses atouts, ses difficultés également, et puis ce que chaque UNT considérait comme étant des freins à son développement, et bien sûr quels étaient les leviers qu'elle avait pu identifier sur lesquels nous allions pouvoir agir. Une deuxième phase de cette étude est lancée actuellement. Elle va consister à aller interroger la gouvernance des établissements pour voir la place des UNT dans la stratégie numérique de chaque université. Et puis, bien entendu, les premiers concernés, les étudiants et les enseignants, pour mesurer leurs attentes, les écouter et les entendre. Vous allez donc bientôt être contacté directement et je ne peux que vous engager à répondre à cette enquête puisque c'est de l'avis de tous que nous pourrons tirer un certain nombre d'enseignements et de conclusions. Mais d'ores et déjà, avant même que cette enquête n'ait abouti, il est clair que l'action des UNT ne peut pas être limitée à la mise à disposition des ressources pédagogiques, même si c'est un élément tout à fait fondamental. En organisant la mutualisation des contenus, certes, les UNT ont permis de constituer une offre cohérente et attractive de ressources pédagogiques. Mais n'oublions pas qu'en incitant à une production collaborative et mutualisée, les UNT ont permis l'émergence de ressources qu'un établissement seul ne pouvait se permettre de constituer. Citons par exemple les tests de positionnement, les éléments d'auto-évaluation, les banques d'exercices, etc. Les UNT ont aussi œuvré à la diffusion de normes, comme par exemple le supplom FR pour l'indexation. Elles ont permis la diffusion d'outils comme les chaînes éditoriales, pensons à Scénarii notamment. Elles ont incité et activement participé au déploiement d'Ori OAI, etc., etc. Ainsi, les UNT, c'est aussi une démarche globale autour de la conception, de la production professionnelle et de la valorisation de ressources qui est proposée. Mais on ne peut pas parler des UNT sans mentionner à ce moment-là le travail important et central réalisé par les groupes de travail. Je ne ferai que les citer puisque je sais que mon voisin Albert-Claude Benamou va vous en parler plus longuement, mais il est prévu cette année 4 thèmes de réflexion à l'inter-UNT. Le premier concerne le cycle de production d'un document pédagogique, le deuxième le cycle de valorisation d'un document pédagogique, le troisième la pédagogie proprement dite, à mettre en œuvre pour concevoir une ressource et l'utiliser. Et quatrièmement, tous les aspects juridiques. Et je ne doute pas que depuis longtemps, vous soyez déjà des lecteurs assidus de la rubrique juridique qui est offerte via le portail des UNT. Tous ces résultats feront l'objet d'un séminaire ouvert à tous qui est programmé en juin à la fin de cette année universitaire, de manière à faire part des différents résultats de ces groupes de travail. Les défis que doivent aborder les UNT ne se limitent pas à ces seuls aspects. Si la diversité disciplinaire est une richesse en soi, il est clair qu'une nécessaire harmonisation est devenue indispensable, notamment quand on parle entre les UNT des appels à projets, de leur calendrier, des chartes d'adhésion, des conditions d'utilisation des ressources offertes. Il est devenu maintenant indispensable pour une meilleure visibilité de l'offre, des conditions et des soutiens qui sont offerts, de mener ce chantier qui vient d'être ouvert. Le développement des usages est un deuxième enjeu majeur. S'il passe d'abord, bien sûr, par une meilleure communication de l'offre des UNT, qu'il va nous falloir réfléchir et remettre en place, il nécessite aussi de mettre en cohérence l'offre des UNT avec les besoins qui peuvent s'exprimer dans les établissements. Alors si, comme je vous l'ai dit, l'étude qui est en cours va nous permettre d'identifier, de mieux connaître, de recenser ces besoins qui émergent dans les établissements, il est aussi indispensable de sensibiliser et de mobiliser les enseignants par des actions de promotion d'orientation et de formation ciblée. Mais je voulais simplement indiquer aussi à ce niveau-là que la motivation des enseignants dans le domaine de la santé et du sport est à ce point de vue-là tout à fait exemplaire et devrait donner des idées aux autres UNT. Un troisième enjeu crucial est celui de l'international. Les UNT ont un rôle essentiel à jouer pour le rayonnement, la visibilité, l'attractivité de l'enseignement supérieur français. Monsieur le Président, permettez-moi de dire qu'à ce titre, l'action de l'UNF3S est tout à fait exemplaire. L'implication de ses responsables pour porter des projets internationaux est indéniable. Je ne peux pas citer toutes les actions qui sont faites par l'UNF3S dans ce domaine, mais permettez-moi, vous le connaissez mieux que moi, de rappeler simplement le projet emblématique Mère-enfant que l'UNF3S porte avec conviction et dynamisme depuis quelque temps déjà. Citons aussi un deuxième projet plus récent, le projet EOMED, autour de l'Union pour la Méditerranée, auquel l'UNF3S participe depuis l'origine. Cet EOMED, cet espace ouvert de la Méditerranée, va bientôt se structurer en une association internationale dont les universités numériques thématiques françaises vont être les membres fondateurs, et parmi elles, bien sûr, au premier rang, l'UNF3S. Je ne peux, Monsieur le Président, Albert-Claude et vous, que vous encourager à poursuivre, à développer ces actions à l'international. Je conclurai le rapide panorama des UNT dans cette année universitaire 2010-2011 autour des actions, des enjeux, en sollicitant l'UNF3S et en particulier son président sur un point particulier qui est un thème de réflexion à l'heure actuelle. Quel pourrait être l'apport des UNT d'une manière générale et beaucoup plus spécifiquement de l'UNF3S à la constitution d'une offre de formation numérique et à distance, en lien avec la formation continue professionnelle en France et à l'étranger, et cette offre et cette constitution, la mise en place de ce dispositif, pourrait légitimement trouver sa place dans le cadre du grand emprunt. Je suis sûre que vous aurez des réponses convaincantes au vu des actions déjà entreprises à apporter sur ce thème-là, et je compte sur votre participation et vos idées. Au nom de la très nouvelle mission du numérique dans l'enseignement supérieur à laquelle j'appartiens et qui est créée depuis quelques semaines maintenant au sein de la DGESIP, je vous souhaite un colloque enrichissant, et ça je n'en doute pas, des échanges fructueux et des discussions nombreuses. Bon colloque à tous.
D'abord, merci d'être venus si nombreux. C'est le premier congrès de l'UNF3S, il faut quand même le rappeler. Ça fait un an, en gros, un peu plus d'un an qu'on a entrepris de réunir les quatre spécialités, médecine, odontologie, pharmacie, STAPS. Et vous voyez par ce congrès que du progrès a été fait. La fusion est telle que des collègues m'ont dit hier, mais pourquoi il y a une journée qui est pour tout le monde et des journées par spécialité ensuite, pourquoi toutes les journées ne sont pas pour tout le monde? Vous voyez donc l'état d'esprit de travailler ensemble a déjà énormément progressé, et ça c'est la première bonne nouvelle que je voulais souligner, à partir bien sûr de l'expérience de l'UMF de la médecine. Je ne sais jamais les initiales, je ne les ai jamais dans le bon ordre. Enfin, c'est comme le tiercé, on gagne quand même quelque chose dans le désordre. La deuxième chose que je voulais dire pour la progression qu'on a connue cette année, c'est que la politique d'appel d'offres qu'on a menée est une politique qui augmente la transparence et qui augmente en fait les réponses. On a en deux appels d'offres environ proposé d'aider ou de supporter des projets à hauteur de 1 500 000 euros, ce qui est beaucoup. Et le fait que qu'il y ait une visibilité, le fait que effectivement ça représente une aide réelle pour beaucoup de collègues, ça a entraîné des candidatures en bien plus grand nombre qu'avant. Si bien, c'est paradoxal, on a mis plus d'argent, on a eu plus de candidats et on a été obligé de ne pas prendre tous les projets. Mais je crois que les gens qui ne sont pas été pris, les propositions qui ont été faites, qui n'ont pas été retenues, seront proposées aux prochains appels d'offres. Et on a décidé en comité exécutif hier soir que le prochain appel d'offres, on le prépare pour dès le début 2011, c'est-à-dire probablement pour le mois de février. Donc par conséquent, tous ceux qui sont là, qui dans la plupart des cas ont déjà bénéficié ou vont bénéficier des aides, et ceux qui sont pas là parce qu'ils n'ont pas encore bénéficié des aides, vous pouvez faire passer le mot. On va rouvrir un appel d'offres très rapidement. Là, je voudrais souligner deux, trois autres points plus prospectifs. La question qu'on se pose, comme vient de le dire Madame Boyer, c'est comment on fait pour aller au-delà. Alors c'est vrai que l'UNF3S a déjà eu des actions et continuera à avoir des actions importantes vers les pays du Sud. Vous avez mentionné le programme Mère-Enfant. On a Jean-Paul Franck qui va arriver d'un instant à l'autre, parlera certainement du programme Haïti qui vient de démarrer. Donc un certain nombre d'activités extrêmement importantes, et je dirais l'enseignement à distance, la numérisation, est particulièrement important pour les collègues des pays du Sud, dits du Sud, pour la formation et pour la diffusion des connaissances. Donc l'UNF3S, c'était une de ses priorités, va continuer à s'engager dans cette direction. Une autre direction importante, c'est la réforme des études médicales et paramédicales. Et là aussi, le souhait de l'UNF3S, c'est d'embrasser l'ensemble des professions médicales. Je salue la représentante des sages-femmes qui nous fait le plaisir d'être ici, mais il y a aussi les infirmières, il y a aussi de nombreuses autres formations paramédicales, et je crois que on doit mettre du contenu, on doit s'intéresser à l'ensemble de ces formations avec nos ressources numériques, et ça fait partie de nos intentions. Enfin, Madame Boyer, vous venez de parler du grand emprunt. Il est vrai qu'il va y avoir un appel d'offres dans le cadre du numérique, et je crois qu'il n'est pas encore sorti. Dans notre jargon, on l'appelle appel d'offres NKM pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Je sais pas si elle sera encore là jeudi prochain, mais enfin, l'appel d'offres numérique subsistera très vraisemblablement. Donc, effectivement, c'est important pour nous de nous situer et de répondre à ces propositions. Mais comme disait l'autre, il n'y a pas de bon vent quand on ne sait pas où est le port. Là, je crois qu'il faut aussi qu'on définisse une stratégie pour aller au-delà. Le travail qui a été fait par les UNT et par le nôtre particulièrement, de mettre à disposition des contenus, c'est un travail, je dirais, un peu de ressources numériques, de bibliothèques numériques. Maintenant, comme vient de le dire Madame Boyer, il faut savoir ce que les gens font de ces ressources, comment ils les utilisent, et moi je crois que la question primordiale maintenant, c'est comment les utiliser mieux, comment faire en sorte que... Et j'ai quelques idées là-dessus, comment faire en sorte que ça soit intégré dans des cursus, et donc le colloque que vous avez organisé au mois de juin, je crois qu'il est le bienvenu. Ça m'amène à deux choses sur les colloques. Le comité exécutif propose que les colloques de type UNF3S comme celui-ci aient lieu tous les deux ans, et j'ai déjà un volontaire donc pour 2012 que je remercie. C'est l'université de Lille 2, représenté par Patrick Pelayo, ici présent. Merci Patrick. Donc déjà un volontaire pour l'organisation. S'il y en a d'autres, il faut qu'ils se fassent connaître. On aura un choix cornélien à faire. Et les années impaires, les années où il n'y aura pas le colloque de l'UNF3S, on propose de faire une journée de réflexion qui est probablement plus simple pour beaucoup d'entre vous, ça serait qu'elle ait lieu à Paris. Donc une année le colloque UNF3S en grand, une année une journée de réflexion. Et ce que je suggère, on n'en a pas encore parlé, mais c'est que la journée de réflexion, on pourrait la faire cette année avant, pour préparer le colloque du ministère au mois de juin. Dès qu'on saura les dates, on pourrait, nous, UNF3S, se réunir une journée ou une demi-journée pour travailler sur les réponses ou notre position par rapport au colloque que vous allez organiser au mois de juin.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, chers amis, chers collègues, chère Anne Boyer, merci de me permettre d'abord de vous saluer et de vous dire la bienvenue à ce 11e colloque Internet et pédagogie. D'abord, c'était des sciences médicales, IPM, et maintenant des sciences de la santé, IP3S. On a commencé cette aventure avant même la constitution des UNT, dont on a parlé depuis 2003, en 2000, à la Pitié-Salpêtrière, dans mon université à Paris 6. Donc, et la présidence de notre groupement est maintenant revenue à Paris 6 après avoir été menée pendant 2 cycles de 3 ans par l'université de Lille 2. Avec d'abord un président juriste, José Savoie, et ensuite un président pharmacien, Monsieur Christian Sergerhardt. Et donc le relais a été passé à nouveau à un président à la fois sciences fondamentales, sciences et médecine. Et donc cette aventure qui a commencé donc l'impulsion de la médecine en 2008, nous avons suggéré à la SDTIS, à l'époque ça s'appelait la SDTIS, l'idée de l'étendre, comme je le souhaitais, véritablement, fortement, à l'ensemble des sciences de la santé, à faire monter dans l'UNT la pharmacie, l'odontologie, et par un peu un concours, on pourrait dire, politico-administratif, le ministère de la Santé étant devenu un ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, il y avait une cohérence à faire de notre UNT un ensemble avec les sciences du sport. Et cet attelage à 4, avec l'impulsion de notre président, eh bien, comme il vient de le dire, est un attelage qui, c'est pas simple, mais ça fonctionne. Et vous allez voir qu'aujourd'hui et demain, le travail est en train de produire ses fruits et cette interpénétration de nos disciplines, travailler régulièrement avec des pharmaciens, des odontologistes, des sportifs, on s'enrichit mutuellement. Et ça, c'est vraiment une chance, une opportunité. Et au-delà même de cette alliance à l'intérieur de notre UNT, il y a une autre alliance que souhaite le ministère, et elle est très très importante, c'est l'alliance inter-UNT. Et de nombreux projets pourraient être menés, évidemment, avec une potentialisation, un renforcement de nos moyens, de nos compétences, de nos ressources humaines, en travaillant par exemple sur des projets communs avec l'Université virtuelle de l'environnement, UVED, qui, santé et environnement, c'est quand même des sujets lourds, importants, et on n'a pas tant de ressources en ligne de bonne qualité pour accéder à ces connaissances qui sont fondamentales. On en parlait récemment avec le président Bernard Michon de Strasbourg, de l'idée pour lui qui préside à l'UOH, l'Université ouverte des humanités, de l'intérêt qu'il y aurait pour lui, pour son groupe, à travailler avec l'UNF3S, en particulier pour les sciences du sport, parce que psychologie et sport, vous voyez bien, tous ces sujets, société, sociologie, et nous, l'interférence entre sport et santé, évidemment, c'est fondamental. Et donc, c'est ce creuset nouveau que nous allons essayer de construire dans le monde du numérique, par la révolution du numérique, et on en parlait hier soir avec Alain Nurich et d'autres, cette rencontre eût été plus difficile, beaucoup plus difficile sans le numérique. Et donc c'est cette chance qu'il faut saisir. Alors très rapidement, parce que je voudrais pas vous dire un peu, je veux vous dire simplement comment notre plan de développement, grâce vraiment à une impulsion très forte de notre président, est en train de produire vraiment un nouveau souffle depuis 2003. Notre bibliothèque virtuelle, de ressources numériques de qualité pour la médecine est en train de s'enrichir considérablement. Et il a fallu... Alors, on a eu la chance d'avoir un soutien très significatif du ministère, puisqu'on avait pu capitaliser un certain des ressources financières qu'à un certain moment, la direction du ministère des finances nous reprochait. On avait trop capitalisé, thésaurisé d'argent. Il fallait le dépenser. Et c'est ce qu'on s'est employé à faire. Et ça a permis, évidemment, une nouvelle impulsion et un nouvel entraînement de l'ensemble quasiment des établissements qui font partie de notre groupement, qui ont proposé des ressources grâce à un double appel d'offres qui a eu lieu en juin et en octobre, et dans lequel on a pu mettre 1 714 000 euros, ce qui est quand même une opportunité formidable. Et ça a permis de faire émerger, et comme l'a dit Anne Boyer, l'importance des UNT, c'est de pousser vers des ressources qui ne seraient pas accessibles à un seul établissement, même aussi puissant soit-il. Et l'aspect collaboratif interuniversitaire apparaît, et c'est là où nous avons poussé dans cet appel d'offres. C'est le sens que le comité de projet, dirigé par Marcel Spector, a orienté les choses dans ce sens-là. Et on a aussi, en médecine, mais également en pharmacie, en odontologie, en sciences du sport, on fait apparaître aussi de véritables programmes nationaux d'une discipline, la cardiologie, la neuro. Et on a pu réunir, grâce à un autre de nos brillants collaborateurs, Henri-Jean Philippe, professeur Henri-Jean Philippe de Nantes, très récemment, je ne sais pas exactement le nombre, au moins 40 disciplines dans le secteur médical, avec les représentants des collèges nationaux des disciplines, et qui sont tous venus, ont passé une journée à travailler pour savoir comment on pouvait avancer et à proposer de nouvelles idées. Eh bien, donc voilà. Alors, on a pu, un exemple à partir sur l'appel d'offres de juin, il y a eu 13 projets qui ont été financés à plus de 30 000 euros. C'est quand même significatif. Et comme on l'a exprimé dans les choix de ce programme de ce congrès, on a aussi favorisé les innovations technologiques, pédagogiques, avec la 3D, les serious games, les simulateurs, la réalité augmentée, toutes choses qui demandent de gros efforts et des moyens financiers importants. Alors, on va dans le sens aussi de la préoccupation du ministère et la grande critique qu'on entend souvent des UNT. On a même failli, je crois, dernièrement passer à la trappe, parce que les gens n'ont pas réalisé la puissance que nous avons avec ces UNT. Eh bien, c'est démontrer que ces ressources que nous mettons tant d'efforts et tant d'argent à mettre en place sont véritablement utiles aux étudiants. Et ça, c'est de notre responsabilité collective de faire apparaître que le meilleur pour tous est possible grâce à la prescription des enseignants. Évidemment, si les enseignants ne donnent pas une impulsion en disant les ressources qui sont là et qui ne prennent pas conscience qu'elles existent, évidemment, les étudiants ne font que faire ce que leurs enseignants... Ils suivent les prescriptions de leurs enseignants, et c'est normal. Donc, c'est à nous, enseignants, de pousser à la connaissance et à la meilleure visibilité des ressources à l'intérieur. Parce que maintenant, nous sommes dans des environnements numériques de travail. Il faut pousser les ressources de l'UNT dans les ENT. Sinon, les étudiants ne les voient pas, ils vont pas, ils n'ont pas l'idée d'y aller. Et donc, ça induit un moindre usage. Deuxièmement, favoriser la meilleure connaissance et le retentissement au niveau national et international d'un certain nombre de manifestations, de ressources audiovisuelles de grande qualité. C'est le travail qui est mené par François Collère pour Canalu 3S, moi maintenant je l'appelle ça comme ça, Canalu Santé et Sport, Sciences de la Santé et du Sport. Eh bien, c'est extraordinaire. quand on montre les ressources, et c'est merveilleux. Il faut vraiment s'en pénétrer et le faire savoir, au-delà même des usages des étudiants en médecine, de vos patients, de l'ensemble des personnes que vous avez, avec lesquelles vous pouvez échanger sur ces sujets. Et puis, bien sûr, on a pu aussi financer des grands projets technologiques comme le programme ORI-OAI, participer avec les autres UNT sur ce sujet, et la nouvelle interface éditoriale. Alors, on travaille aussi beaucoup à améliorer la communication. Je salue l'arrivée du doyen Jean-Paul Franck, qui revient de loin. Merci Jean-Paul. Et donc, la communication est très importante. Donc, on recrée un portail un peu plus « new look » pour l'UNF3S, plus adapté aux usages des étudiants, qui sont maintenant dans... la e-génération, les natives du numérique, hein, les natifs du numérique, c'est très important. Il faut aller dans leur sens, leur proposer des outils qu'ils aiment bien, comme Facebook, comme Twitter, être présent sur les sites de diffusion audiovisuelle comme YouTube, Dailymotion, etc. Et c'est notre devoir d'y aller et de faire connaître nos productions dans ces secteurs-là. La presse audiovisuelle, la presse de l'Internet est très importante. Le buzz entre étudiants est fondamental. Alors, on a également aidé à faire émerger le site des odontologistes, qui est encore un peu en gestation, mais je pense que ça va arriver. Les pharmaciens, maintenant, il y a vraiment un thésaurus de ressources dont Françoise Galland vous parlera. Et puis, la relance de ce congrès, IP3S, eh bien, c'est le travail sur lequel nous avons beaucoup insisté. Et en 2011, bien sûr, nous allons continuer, et on en parlait encore hier, d'améliorer la bibliothèque numérique universelle de ressources d'enseignement des sciences dont nous nous occupons. C'est fondamental. Même si ce n'est pas suffisant, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Parce qu'une bibliothèque bien faite, complète, à jour, adaptée aux besoins de l'étudiant, en fonction de ses niveaux de formation, bien référencée, indexée, éventuellement dans d'autres langues, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment encore, il y a un gros effort à faire, c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Et bien sûr, nous allons insister pour encore améliorer l'offre aux étudiants, pour les nouvelles disciplines, je pense que en odonto, les étudiants d'odonto aujourd'hui n'ont pas ce qu'il leur faut. Il faut vraiment y aller et il faudra insister, pousser dans ce sens-là. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on va sur les projets poursuivre et amplifier l'action nationale de développement. Ça, c'est je viens de le dire. J'ai les nouveaux projets, financer les projets inter-UNT de qualité. Amplifier l'action internationale, dont Jean-Paul Franck vous reparlera, participer pas seulement à des actions vers le Sud, mais aussi au niveau européen, et pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas au Canada, travailler avec les Canadiens dans le monde francophone, c'est très important, on peut le faire. Et donc, et vers le monde hispanophone d'Amérique du Sud, le ministre mexicain de la Santé ne rêve que d'une chose, c'est la traduction de l'UMVF, en particulier de la médecine, en espagnol. Donc on pourrait peut-être aller dans ce sens-là. Et c'est des choses voilà, que nous pourrions faire. Donc cette idée de traduire nos contenus, au moins dans des langues pivots comme l'anglais et l'espagnol, c'est un plan qu'il faut peut-être mettre en œuvre. Je vous parlais aussi de notre introduction dans le monde du web et dans le monde de l'open source, parce que vraiment c'est du libre. Hein. On a une particularité, c'est que nous produisions des ressources d'accès libre et gratuit. C'est quand même exceptionnel. Et quand vous allez au fin fond de l'Afrique, dans des endroits vraiment très isolés, les étudiants en médecine que j'ai pu rencontrer à 700 km de Dakar, à Tambacounda, avec François Collère et Chantal aussi, c'était étonnant quand ils vous disent « l'UMVF, monsieur, on connaît ». Et ils vous disent « mais nous, des ressources, des livres d'anatomie à 100 ou 120 euros, on ne peut pas se les payer. Et là, vous nous offrez non seulement le livre, mais de l'audiovisuel, des ressources interactives. C'est un progrès formidable. Donc, entrer dans cette préoccupation de l'ouverture, d'entrer dans les mondes comme Android, iTunes. Je sais qu'à Paris 6, on est déjà sur iTunes, et dès qu'on a mis des ressources sur iTunes, la fréquentation de nos ressources de Paris 6 est devenue exponentielle. Incroyable. Marcel Spector travaille avec Google France pour voir comment on pourrait introduire nos ressources dans le monde de Google et donc d'Android. Les stratégies pédagogiques, donc ça c'est vraiment... Alors ça c'est aussi un point clé. Pour que les usages se développent, il faut qu'il y ait une volonté facultaire, et en particulier des commissions pédagogiques, pour faire valoir l'intérêt de ces ressources. Sinon, ça ne marche pas. D'où notre implication dans des contacts permanents avec les conférences des canaux, pour qu'il y ait finalement une prescription volontariste des doyens. On ne peut pas tout imposer aux collègues, mais une forte stimulation, c'est nécessaire, une implication du doyen dans la commission pédagogique numérique. Si les doyens ne s'impliquent pas, malheureusement, ce sera un peu plus long. Ça viendra, parce que je crois que là, le mouvement est irréversible. Ceux qui pensent qu'ils vont se passer du numérique aujourd'hui, il y a 10 ans, on me disait que c'était pas possible. Maintenant, je suis persuadé qu'ils disaient vraiment une énormité. Maintenant, c'est une évidence. Et donc, ceux qui vont passer à côté de ça, eh bien, ils laisseront le train passer, ils seront derrière. Donc, avançons, continuons, allons dans le sens des besoins des étudiants, et on gagnera. Leur proposer des ressources performantes, des systèmes d'auto-entraînement, de ranking, de rating, qui vont leur permettre de savoir où ils en sont par rapport aux autres, parce que c'est leur préoccupation. Eh ben, je crois que ça va nous permettre de redonner à l'université sa place dans le champ de ceux qui font, et peut-être en alliance, pas forcément en opposition, avec cette espèce de mouvement extérieur aux facultés et aux universités qui consiste à offrir de nouveaux services venant du marché privé, hein, du tutorat en ligne, etc., mais à condition de payer 300 euros pour avoir un suivi pédagogique. Il y a de grosses initiatives dans ce sens. Donc, comme disait le président hier, il faut que l'université s'engage également dans ce type de service nouveau. C'est important. Et je termine. Voilà. À nous de partir. Je crois que je vais pas parler beaucoup des groupes de travail inter-UNT parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais la DGCIP met en place. Alors, ça nous fait plaisir parce que, en fait, ce que vous faites, ce que la DGCIP est en train d'instituer en inter-UNT, nous l'avons fait à l'UMVF et maintenant à l'UNF 3S. On a fait nos commissions de travail, c'est exactement les mêmes. Juridique, pédagogique, cycle de production et techno, cycle de diffusion, indexation, etc. Alors ça, c'est très important d'y aller. Alors une tentative, alors peut-être venant d'en haut cette fois, d'harmonisation, hein, c'est le rôle peut-être de l'État et d'essayer de mettre de l'ordre. Attention, pas trop. Attention, parce que mettre trop d'ordre, ça tue un peu parfois les initiatives. Et il faut laisser, on est dans le monde un peu libertaire de la production. Oui, on me fait signe sur l'heure. Calendrier des appels, etc. Bon, harmonisation, pourquoi pas. Articulation entre établissements UNR et UNT, ça c'est important. Meilleure transversalité. Valorisation, hein, et ça c'est aussi très important. Et communication, pour améliorer la visibilité. Je termine sur cette image un peu forte, hein, rouge. C'est une priorité. L'UNF 3S doit rester un modèle de développement d'UNT. Elle a la volonté de le faire. Elle participera activement au groupe de travail inter-UNT. Ça améliorera la notoriété de l'enseignement universitaire français dans le monde. Je vous remercie.
Merci de me donner la parole pour les composantes en premier. Je dis ça parce que non pas qu'on ne soit pas habitué à l'odontologie à qu'on nous donne la parole en premier, mais c'est un grand honneur de... Voilà. Il y avait une dent, et d'une certaine manière, puisqu'on parlait tout à l'heure de naissance, je vais vous en parler longuement, et puisqu'il y a certainement des collègues sages-femmes, elles vont savoir ce que je vais dire sur la prématurité et finalement les enfants à terme. Alors, l'Université numérique des sciences odontologiques, c'est une université qui est jeune. Parce que quand on parle d'université jeune, c'est surtout, donc, si vous voulez, qu'on a affaire à une université qui, finalement, n'a pas plus de 3 ans. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il faut se méfier de la prématurité. C'est tout simplement que la précipitation n'est pas non plus notre fort, d'une certaine manière, ça c'est certain. On a peut-être tort d'aller à un autre rythme, mais il faut voir aussi à quelle échelle nous travaillons. Nous travaillons donc tout simplement à une échelle où, à partir de 2006, 2007, peu importe la date, à quelques mois près ou quelques jours près, nous avons été quelque part invités, et ça je tiens tout de suite à remercier M. Albert-Claude Benhamou, le directeur de l'UNEF3S, et bien entendu tout l'ensemble de nos collègues, à participer à une grande aventure. Et cette grande aventure, elle n'est pas partie de rien, elle est partie finalement des acteurs qui pouvaient être présents sur la scène et qui pouvaient être à l'écoute. J'ai entendu tout à l'heure que les doyens étaient quelque part sollicités pour avoir un esprit d'ouverture, une certaine compréhension. De notre côté, nous, on a été tout de suite ouverts et enchantés de participer à cette aventure en sachant qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Je ne crois pas qu'il y ait de grands informaticiens parmi nous, je n'en prétends pas en être un, mais on sentait que du terrain, on sentait que d'une certaine manière, à partir de l'ensemble des expériences que l'on pouvait voir, il y avait peut-être une matière à creuser. D'un autre côté, il y a une expression, puisque donc j'aime cette expression d'un auteur classique qui est Calderón de la Barca, c'est-à-dire tout simplement que la vie ne survient qu'une seule fois, et puis c'est une occasion de ne pas rater. C'est la même chose. L'UNF3F, je pense, cette aventure ne survient qu'une seule fois. Si on la rate, ça n'ira pas. Donc on est parti de la conférence des doyens, et c'est vrai que cette initiative qui est donc tout à l'honneur de nos collègues de la conférence est une initiative qui a été au départ construite en nommant, quelque sorte, des personnes qui étaient chargées de mission. Et nous avons donc Pierre-Hubert Dupas, il y a eu moi-même, il y en a eu d'autres. À vrai dire, on travaille de manière très collégiale. On est obligé de porter un flambeau, mais on le porte pour les autres et sans particularisme particulier, en tout cas sans en faire une affaire quasiment pour se faire mousser personnellement. En tout cas, c'est comme ça que nous le voyons. C'est une impulsion qui nous a permis donc de rapprocher des autres composantes, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, certainement, il y a aussi l'air du temps. Vous savez, c'est comme l'atmosphère. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté un olivier, je vous ai présenté un certain nombre de choses. Il y a un cadre dans lequel on va évoluer. Eh bien, il y a eu la SDTIS, c'est vrai, Madame Boyer tout à l'heure nous a bien expliqué les attentes du ministère, qui a lancé un certain nombre d'initiatives, et il ne faut pas le nier, qui au départ privilégiait les petites composantes, en tout cas les composantes émergentes. Je n'aime pas le terme de petites composantes, il n'y en a pas. À vrai dire, c'est simplement celles que l'on voit moins bien, et l'odontologie en faisait partie. Et de ce côté-là, nous avons pris le train, et nous sommes partis dans cette aventure, avec une émergence qui s'est concrétisée par tout simplement ce mariage à plusieurs qui est l'UNF3S, avec plus ou moins bien entendu ces complications, donc qui sont des complications naturelles et tout à fait d'usage, qui font tout simplement que nous devons tous trouver des codes pour pouvoir fonctionner ensemble, mais qui à l'heure actuelle semble avoir trouvé son rythme de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que finalement il y a une chose que je tiens ici à dire. En peu de temps, les composantes de santé ont réussi à trouver quand même un diapason, un sens de la musique et finalement arriver de l'avant. Je vous signale qu'avec beaucoup moins de personnes ailleurs, il y a encore des guerres souterraines et des situations inextricables. À partir de là, nous avons eu des appels d'offres internes et nous avons commencé à y répondre. Notre réflexion au sein de la conférence, même au niveau de l'odontologie, c'était qu'il fallait partir de manière cohérente. On est 16 villages, il y a 16 UFR. Il n'y a pas des milliers d'odontologistes, il n'y a pas des milliers d'enseignants. Si on ne part pas avec une cohérence collégiale dans laquelle, d'une certaine manière, nos ressources peuvent être toutes produites avec une certaine adéquation, c'est-à-dire une certaine acceptation par la communauté en général, ça n'ira pas. Donc nous, d'entrée, on a voulu tout simplement associer l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire, non pas que ça ne se faisait pas ailleurs, mais on ne pouvait pas faire nous autrement. En clair, on ne pouvait pas partir avec des idées, on va dire, dissociées ou isolées. Donc on a créé un mode d'organisation qui est assez centralisé, je suis désolé, mais d'une certaine manière ça permet une certaine cohérence, avec nos évaluations, c'est-à-dire que nous avons établi nous-mêmes nos propres fiches d'évaluation, puisqu'il y avait des spécificités disciplinaires. La seule chose qui reste encore, vous l'avez dit, c'est la valorisation, c'est-à-dire qu'en termes de site et de visibilité, eh bien, on a mis un certain temps, et on met encore un certain temps, à trouver des solutions pour être visible. Ce qui est embêtant dans cette histoire, si vous voulez, de site et de visibilité, c'est que c'est vrai que l'on a été relancé sans cesse pour avancer sur ce point-là, mais on était tellement attelé à la tâche de pouvoir trouver et faire le point de nos ressources, qu'il était, nous semblait moins peut-être, je ne dis pas prioritaire, mais vital tout de suite de faire apparaître une seule ressource sur un site palpitant. Il fallait quand même avoir quand même un contexte et c'est là à cela qu'on s'est attelé. C'est ce qui explique peut-être un petit peu le retard. Donc on a fédéré des initiatives entre les différents enseignants, on a diffusé ce que l'on pouvait en quelque sorte sur ce site qui existe quand même, hein, c'est pas l'Arlésienne, hein. Et on a essayé surtout de générer cette espèce de cohérence qui est une architecture qui part des doyens, cette fois-ci, qui part vers les collèges, mais qui va aussi vers les enseignants. Alors, de la même manière, donc bien entendu, cette structure collégiale est totalement ouverte et organisée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un clan fermé. Tout à l'heure, on a parlé de transversalité. Je vous ai montré sur la diapositive qui vient de passer un peu trop vite l'organisation centrale. On a établi, nous, bien entendu, un conseil scientifique. Donc Jacques Dejoux donc, est en tête. Donc il y a Marbola qui est le vice-directeur donc, pour la filière. Il y a moi-même après qui représente votre serviteur donc ici la partie donc vis-à-vis du 9-3S. Et puis bien entendu, il y avait donc un représentant au niveau des comités des projets. Mais toutes ces personnes-là qui représente l'architecture, on va dire, de l'odontologie, puisque vous avez à peu près un triptyque qui va un peu partout dans sur la France, ne sont pas les seules personnes exclusives. Derrière, il y a d'autres personnes qui sont donc présentes, et nous ne considérons pas, je pense que je peux parler librement ici pour mon président, que nous avons un monde petit et restreint. Hein. C'est quelque chose d'ouvert. Notre comité, donc, quelque part, est ouvert à toutes les doyens et, d'une manière générale, à l'ensemble des collègues de l'odontologie. On a ensuite établi un référent par UFR. En tout cas, c'était la démarche pour pouvoir collecter les ressources. C'est vrai qu'ils nous ont donné un certain nombre d'informations, mais certaines informations vont faire apparaître, vous allez voir, un petit peu des rétentions ou, on va dire, des difficultés. C'est toujours pareil. Vous savez, c'est une culture. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ce que la médecine a mis peut-être plusieurs années, près de 10 ans à établir, nous, en 2-3 ans, on va peut-être pas le faire, mais on est en marche. De la même manière, on a associé et on tenait à le faire l'ensemble des collèges, puisqu'il était exclu de pouvoir s'en passer pour la validité. Et on a constitué une charte interne de fonctionnement. On a constitué une procédure de fonctionnement, on a constitué des évaluations qui sont très, très, très bien organisées. Donc, en clair, je ne vous les ai jamais produites, mais quand vous voulez, à chaque fois qu'il y a eu des projets, on les a discutés, on les a dépecés, et on peut vous amener à partir de là une preuve que l'on y a réfléchi. Alors, quel est le problème, finalement? Parce qu'il faut quand même discuter de perspectives, mais quand on parle de problème, c'est quand même de l'avenir. C'est moins des problèmes que plutôt des idées à résoudre. C'est que c'est un peu balbutiant, c'est vrai, je reconnais qu'il faut une plus grande visibilité, et de ce côté-là, il faut qu'on s'attelle à essayer de demander encore plus de ressources à nos différents collègues, c'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on va continuer à faire, et surtout donc à permettre donc que notre partie site puisse être un site qui ne soit pas un site fantôme, pour reprendre un terme très amical qui m'a été suggéré, mais un site actif et réel. De la même manière, il faut savoir qu'il y a une éducation. L'ASDTIS, à un moment, je pense que c'était l'année passée, nous avait réunis et nous avait proposé, le ministère, de savoir où en était la formation des enseignants. Et c'est vrai que de ce côté-là, nos enseignants sont peut-être pas tous formés à la même école et du coup n'ont pas la même culture. Mettre en place des TIS, mettre en place de l'enseignement, c'est pas quelque chose de si naturel. Donc de ce côté-là, il y a des efforts et je crois que cette culture, tant qu'elle n'est pas acquise, mais même tant qu'elle n'est pas formalisée, c'est-à-dire que si les CNU, si l'ensemble des... On va pas rentrer dans des détails donc carriéristes, mais d'une certaine manière de valorisation du travail effectué, si ça n'est pas reconnu, c'est certain que... Eh bien, écoutez, ce sera, pour prendre une expression triviale, pin-up, c'est dommage. Ensuite, il y a une appropriation à faire, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut que les enseignements qui sont constitués soient des enseignements qui aient un sens, c'est-à-dire faire du numérique parce qu'on sait jouer avec des systèmes, ça ne sert à rien pour nous. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne servait à rien de mettre un site avec éventuellement que des images 3D. L'essentiel, c'est d'avoir un public. Donc, quand on parlait de cohérence, je vais vous montrer un certain nombre de projets qui ont une cohérence nationale, qui s'adresse à une multitude d'étudiants avec une cohérence qui est d'actualité. Et puis, bien entendu, s'ouvrir à des projets transversaux. C'est ma dernière des pauvres, ne vous inquiétez pas. Les volontés, d'abord, premièrement, c'est ça, c'était prioriser l'utile, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui doivent être concordantes. Quelles sont-elles? Je vous les ai représentées, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont choisies. On a, par exemple, Jean-Claude Robert, donc je tiens ici à excuser donc de son absence, mais qui est très sympathiquement donc s'associe donc à ce congrès. En réalité, si vous voulez, la première des ressources TIS en odontologie pédiatrique concernait toute l'odontologie pédiatrique nationale et de mettre en place des ressources adressées à la pédiatrie et aux enseignants donc et aux étudiants de ces disciplines-là. De la même manière, l'indexation que je porte toujours est une sorte donc de matière très importante, quel est l'existant? Essayer de reprendre l'ensemble de ces éléments de différentes phases. Le troisième point, par exemple, Paris Descartes, Farge, Jean-Christophe et Bernard Pellac, que je salue, qui est dans la salle, nous avons pu mettre en place, grâce à eux, ce qu'on appelle l'idée pour le PACES, de mettre en place, théoriquement, dans le portail, puisqu'il y a encore quelques ajustements à faire, l'ensemble des ressources numériques pour les étudiants de première année. C'est-à-dire que si vous êtes isolé à Limoges, avec un temps atmosphérique bordelais, sans avoir la possibilité d'avoir un véhicule, mais en ayant un lien Wi-Fi, vous pouvez suivre justement ces enseignements et ne pas être privé de ce qui peut se passer à Montpellier ou à Bordeaux ou ailleurs. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'était quelques exemples, si vous voulez, pour vous dire que nous sommes en marche. Voilà, et le site, donc rassurez-vous, il y a quand même une existence. Je tiens à vous montrer cette image. Merci beaucoup.
Bien sûr, nous aussi, les pharmaciens, on est contents d'être rentrés dans cette équipe de quatre, en sachant que ce n'est pas toujours facile, mais la confrontation valorise tout à fait les efforts. Et donc ça, c'est très intéressant. En ce qui concerne la pharmacie, la réflexion, elle s'est faite en 2007, quand on a fait un séminaire inaugural à Angers, pour savoir si on avait envie de rentrer dans cette expérience et de créer une université numérique. Et en fait, le facteur de motivation principal, ça a été la pédagogie. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le numérique peut nous servir à quelque chose pour améliorer la pédagogie? Et la réponse ayant été oui, on a dit ben, ok, on se lance dans ce projet. Ensuite, il fallait une volonté politique. Et puis ensuite, il fallait organiser ça pour faire à l'économie avec un bon rapport coût-efficacité. Et donc, on a eu aussi un enjeu technique à gérer. Ça s'est traduit par deux grandes décisions. La première décision qui était de dire quelles sont nos missions en tant qu'universitaires pharmaciens. Eh bien, nos missions, c'est bien entendu d'assurer la formation de nos étudiants, la formation initiale, mais c'est aussi parce qu'on est dans des professions de santé qui évoluent très vite, d'assurer la formation continue des professionnels. C'est de trouver un terrain d'échange entre les enseignants pour échanger des ressources. Et puis, c'est de remplir notre devoir de santé, d'éducation thérapeutique vis-à-vis du public. Donc notre cible, ce sont ces trois publics et c'est ce que vous retrouvez dans le programme que nous avons prévu demain. Ensuite, l'expérience que j'avais vue, moi, dans le cadre du numérique dans ma région, m'avait bien fait réfléchir au problème des ressources pédagogiques, parce que pour que ces ressources pédagogiques soient utilisées, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Il faut qu'elles soient adaptées au public auquel elles sont destinées. Il faut qu'elles soient utilisées, ça a été dit par Anne Boyer, ça a été répété par Albert Claude. Je le répète pas, mais je le répète quand même parce que je pense que c'est ça le plus important maintenant. Et il faut qu'elles soient pérennes. Alors j'ai oublié une chose très importante, c'est qu'il fallait bien entendu qu'on s'ouvre à la francophonie et à l'international. Et là, je voudrais remercier Dola Sarkis, la présidente de la CIT Pharmef, qui a fait le déplacement pour cette réunion. Comment est-ce qu'on s'est organisé? On s'est organisé en réseau, et comme on avait une volonté politique forte, eh bien, on a un fort soutien de la conférence des doyens, donc j'en profite pour remercier Dominique Porquet, qui est présent aussi, ici. On a donc un soutien aussi de la conférence des doyens francophones, et puis on a fait comme les odontos. On a dans chaque, les doyens ont nommé dans chaque UFR un chargé de mission UNSPF. Et ça, c'est un maillon essentiel pour relayer les informations auprès des établissements. Bien sûr, comme les médecins, on a des associations disciplinaires, donc vous les appelez des collèges, Nous, ce sont des associations. Et puis, les usagers principaux, ce sont les étudiants. Et là, j'en profite pour remercier les représentants de la NEF qui ont toujours été présents, qui nous ont invités régulièrement pour qu'on avance ensemble sur ce projet. Alors ensuite, il y a les porteurs de projets. Et un projet ne peut pas avancer s'il n'y a pas une cellule d'accompagnement. Et donc, on a fait attention, et comme j'ai une casquette de responsable de service TIS, ça n'a pas été très difficile pour moi, je fais très attention à ce qu'un enseignant fasse son travail pédagogique, mais que la médiatisation puisse être assurée par des professionnels. Alors, au niveau de l'organisation, il fallait faire à l'économie. Il fallait faire à l'économie, pouvoir mutualiser et que ça coûte pas cher. Eh bien, la solution qui nous a paru la plus simple, c'est d'utiliser une chaîne éditoriale, en l'occurrence Scénari, parce que cette chaîne éditoriale, elle a différents modèles. Elle a un modèle qui est parfaitement conçu pour les cours académiques, qui va permettre de faire des documents structurés. Elle a un modèle qui permet de faire des études de cas, et comme il faut motiver les étudiants, eh bien c'est important de les mettre en situation, et ces études de cas sont pour nous essentielles dans la pédagogie. Alors il y a deux modèles pour ça, il y a un modèle qui permet de faire une étude de cas linéaire, un modèle qui permet de faire une étude de cas où chacun va avancer à sa façon. Et puis, bien sûr, on a des disciplines fondamentales qui nécessitent des exercices. Donc, on est en train de constituer une banque d'exercices et de constituer également des banques de QCM, en particulier par rapport à la première année et puis par rapport à l'internat. Alors, il faut que ces ressources, elles soient conçues collégialement. Parce que si elles ne sont pas conçues collégialement, elles ne seront pas utilisées. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui acceptent d'utiliser les ressources d'un autre parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En revanche, si elles ont été conçues ensemble, eh bien, on a une petite chance qu'elles soient mieux utilisées. Et puis là, je reprends l'idée d'Albert Claude. Je pense qu'on ne peut pas non plus demander aux étudiants d'aller toutes les deux minutes sur nos sites parce qu'on a les plus belles ressources. Il faut aussi les amener au plus près d'eux. Et là, grâce au déploiement des UNR, à ce projet des universités numériques régionales qu'a déployé le ministère, on a maintenant dans nos établissements des environnements numériques de travail, des plateformes pédagogiques. On a donc toutes les conditions qui sont réunies pour que ça se passe bien, au moins en France. Alors, comment on s'est organisé au niveau des appels à projets? Ben, comme on est comme les trois jeunes filières, on n'a fait que deux appels à projets jusqu'à présent, un en 2008-2009, un en 2009-2010, et on a mis la priorité sur des ressources qui coûtent pas cher. On n'a pas mis la priorité sur la 3D, on a mis la priorité sur des cours, des exercices, des QCM et des études de cas. Ces projets, ont été de l'ordre de 25. On a accepté que des projets qui étaient portés par des associations disciplinaires ou par un consortium d'établissements. Et là, je voudrais saluer les Lillois et en particulier Pierre Raveau, qui a été un élément particulièrement moteur dans ces projets. On a eu sur ces projets, avec les budgets du ministère et de l'UNF3S, on a pu les abonder à la hauteur de 340 000 euros. Et là, on est quand même pour un démarrage assez content, puisque sur les 24 UFR de pharmacie, il y a au moins un enseignant dans 21 facs qui participe à un projet, au bout du deuxième appel à projet. Et sur les associations qu'on a pu recenser, il y en a 9 sur 16 qui sont impliquées dans des projets. Alors donc, la priorité, elle a été mise aux ressources qui existent déjà, qui ont été en général remédiatisées, ou bien à des ressources interopérables. Au niveau de la pédagogie, eh bien, on a essayé de favoriser les échanges entre les enseignants, d'apporter un soutien de nos services TIS avec les ingénieurs pédagogiques, de les aider au niveau de la médiation et de la médiatisation des ressources, et surtout de faire attention à avoir le regard des étudiants pour qu'ils nous donnent leurs sentiments par rapport aux ressources qu'on va proposer. Alors, bien sûr, il faut gérer ce patrimoine numérique, donc il faut l'indexer, ça va être le gros chantier qu'on va faire maintenant. Il va falloir pouvoir moissonner ces ressources, donc aller les trouver. Il va falloir les archiver, il va falloir les mettre à jour pour qu'elles soient pérennes. La diffusion va se faire par un portail qu'on est en train de modifier, par une communication au niveau de la francophonie à l'international, et j'ai eu la chance de présenter ce projet au Burkina Faso avec la CID Pharmef et deux fois en Chine. Et puis bien sûr, il faut qu'on fasse une communication, une diffusion au niveau de nos facultés, à l'intérieur de nos facultés. Alors voici quelques pages du portail. Ce portail, étant donné qu'on a l'objectif de s'adresser à trois types de personnes, eh bien il y aura un portail en accès libre pour le grand public avec trois grandes thématiques: nous connaître, se former. Alors nous connaître, se former et s'informer. Et donc le grand public pourra trouver des ressources en accès libre. Donc là, il y a une page de présentation l'université numérique. On va faire une recherche un petit peu dans le même esprit que celle du Vidal par rapport aux médicaments et par rapport aux pathologies. Alors voilà un exemple. Et puis pour les étudiants, on va proposer soit une recherche avancée ou une recherche par thématique. Et pour les ressources qui seront sensibles, en particulier dans le domaine du médicament, eh bien, on aura un accès réservé. L'étudiant rentrera sur cet accès via son ENT et le professionnel de santé rentrera via son numéro au Conseil de l'Ordre. Donc ça, c'est la page réservée pour les étudiants et la formation, les professionnels de santé. Et puis, pour que les enseignants puissent partager des ressources, on aura ensuite un nouvel accès réservé. Alors voilà quelques exemples de ressources que je vous invite à venir visiter sur notre site, parce que je ne vais pas vous les montrer maintenant, autrement vous n'allez pas venir sur notre site. Merci.
Bien, bonjour à tous. En ce qui concerne l'université virtuelle en sciences du sport, ce qu'il faut savoir, c'est que son origine, deux facteurs ont contribué à son intégration, notamment à l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. La première, c'est parce que l'histoire des sciences du sport, l'histoire de l'éducation physique et sportive, est intimement liée à celui du secteur de la santé. Preuve en est aujourd'hui les développements phénoménaux des filières activités physiques adaptées santé dans le domaine des STAPS, où il y a de nombreux débouchés professionnels. Le second, c'était aussi des circonstances liées à l'action du professeur Jean Bertsch, ancien président de la conférence des directeurs STAPS, qui, une proposition que je lui avais faite de créer l'université virtuelle sciences du sport, n'a pas hésité à le faire. Et ça, elle s'est faite notamment directement en lien avec l'UMVF, puisque l'UMVF avait son site sur l'île 2 et ça a été un point qui nous a permis d'inaugurer l'université virtuelle en sciences du sport en 2007 en partenariat notamment avec l'UMVF. Un petit mot quand même sur la communauté STAPS qui n'est pas toujours forcément connue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement la communauté STAPS est représentée à peu près par autour de 45 à 50 institutions qui regroupent de grosses facultés qui peuvent aller parfois jusqu'à un peu plus de 2000 étudiants, jusqu'à des composantes un peu plus petites qui sont des départements STAPS où les effectifs sont bien évidemment un peu plus limités. En gros, des effectifs dans nos composantes qui sont entre 500 et 2000 étudiants et qui se répartissent soit en faculté, soit en département, voire même avec une section de l'École nationale supérieure à Cachan, et même des instituts privés. Ça représente à peu près 35 000 étudiants, 2 500 enseignants. Donc c'est une petite communauté. Il était évident, bien évidemment, que les sciences du sport rentrent dans une UNT beaucoup plus grande, hein, de façon aussi à la fois à avoir une plus grande lisibilité. Et parce que c'est ce que je vais essayer de rappeler, c'est que les transferts et les transversalités peuvent être importantes avec le secteur de la santé. Donc des formations, des diplômes inscrits au registre national de certification professionnelle, des laboratoires de recherche, et surtout des liens avec le monde sportif. Alors quand on parle d'université virtuelle en sciences du sport et qu'on parle d'open source, il faut savoir que la visibilité, elle ne se limite pas au monde universitaire, elle s'affiche à tous les pratiquants sportifs. hein, francophones qui viennent visiter notre site. Les partenaires de l'université numérique, enfin l'UV2S, donc c'est bien évidemment inscrit à intégrer l'université numérique francophone des centres de la santé et du sport, sous l'impulsion bien évidemment et l'accord et le soutien de la conférence des directeurs et doyens STAPS, dont je salue la présence du président de la conférence des directeurs STAPS, Paul Delamarche, là-bas tout en haut à droite, en rouge, et aussi en partenariat avec les associations étudiantes, comme l'Association nationale des étudiants STAPS, l'ANESTAPS, qui sont présents aujourd'hui. Bien évidemment, les STAPS, ce ne sont pas que des sciences de la vie. Alors nous avons en gros quatre grands collèges d'enseignants et de commissions, à la fois les sciences de la vie, avec la physiologie, la biomécanique, tout ce qui relève des sciences de la vie. Tout ce qui relève aussi, c'est un peu la spécificité des STAPS, de l'intervention et de la technologie dans les activités physiques et sportives. Hein, vous imaginez tous les cas d'études techniques, technologiques qu'il peut y avoir dans ce cas-là. Le secteur aussi des sciences humaines et sociales, qui est fort. Hein, je vous rappelle qu'il y a des filières management du sport en STAPS, ce qui fait que tout à l'heure, on parlait du rapprochement et croisement des UNT. On ne peut y être que favorable hein, pour, bien évidemment, l'UV2S. Et puis, une commission outils, langage et communication. L'UV2S, le portail de l'UV2S a été ouvert depuis 2007. Il a été inauguré, d'ailleurs, en 2007. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux portails. Un premier portail qui est d'abord visité essentiellement par les étudiants et par tous les pratiquants sportifs, où il y a des fréquentations qui commencent à être relativement importantes, relativement conséquentes. Et puis un deuxième portail, un portail enseignant, où là, les collègues, nos collègues, peuvent venir chercher notamment tout ce qui concerne les informations, les projets, des outils pour monter des ressources. Et il est aussi relativement bien fréquenté. À ce jour, au niveau des ressources pédagogiques, il faut savoir que sous l'impulsion de l'UV2S au départ, et puis aussi des financements qui ont été apportés dans le cadre de l'UNF3S, eh bien, ces ressources pédagogiques sont en augmentation importante. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'au dernier appel d'offres, sur les deux derniers appels d'offres, eh bien, la communauté STAPS ça nous a permis de financer pour plus de 200 000 euros hein, de création de ressources. J'ai un petit film là, mais enfin c'est pas grave. L'université virtuelle en sciences du sport, ce qui est important, c'est que l'analyse de la motricité est une des compétences majeures à développer chez les étudiants en sciences et techniques et activités et sportives. Nous avons besoin de faire des études macroscopiques et c'est pour ça que les outils qui sont développés peuvent aller du simple film didactique à des ressources hypermédia, multimédia et aussi, bien évidemment, ça sera un des objectifs, notamment de la journée de samedi, les STAPS aujourd'hui essaient de développer des ressources nouvelles qui nous permettent une ingénierie pédagogique qui intègre notamment la 3D. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, je préfère quand même le montrer un petit peu. Ça c'est le travail de toute l'équipe de Lyon et de toutes les animations 3D qui seront faites, hein. Vous pouvez, c'est de l'anatomie, mais c'est aussi de l'anatomie fonctionnelle. Vous pouvez faire avec des simples PDF à peu près tout ce que vous voulez. Et c'est ça, je pense, ce sont des véritablement très beaux exemples de ressources numériques au service de l'enseignant, au service de l'étudiant, qui peuvent être utilisées avant le cours, pendant le cours et après le cours. Ça me paraît quelque chose d'important. Je reviens... Je suis en train de jongler. Excusez-moi. Voilà. Et pour conclure, ce qui me semble le plus important, c'est que dans le cadre de l'UNF3S, la mutualisation de l'existant et des ressources bénéficiera bien évidemment à l'ensemble des différents secteurs et que nous envisageons bien évidemment de multiplier et surtout de valoriser, notamment dans les appels à projets, des projets transversaux. Albert Claude, tout à l'heure, en a évoqué quelques-uns, mais vous en avez ici quelques exemples, hein, sport et dopage, prévention primaire et secondaire, sachant que les STAPS sur le secteur du rôle de l'activité physique dans la préservation et le développement de la santé sont des filières importantes, du reconditionnement du patient, de nutrition et santé, d'éthique et intervention. Et hier, dans le simple repas d'hier, où on était avec nos collègues pharmaciens, médecins, très vite j'ai armé autour de la table autour d'un projet qui avait été qui est déjà financé par les dans le cadre de l'UV2S, un projet autour de la physiologie de l'exercice et qui croise plusieurs universités jusqu'à l'île de la Réunion. Donc vous voyez, ça c'est important aussi pour les DOM-TOM, hein, je crois l'UNF3S, eh bien d'associer des médecins et d'associer des pharmaciens avec pour les STAPS, on va dire, une analyse un peu macroscopique. Hein, c'est-à-dire l'homme en mouvement, pourquoi dans tel type de situation, de fatigue extrême, voilà ce qui se passe, etc. Jusqu'après des analyses plutôt cardiovasculaires, métaboliques, jusqu'à des analyses cellulaires. Et là, on a imaginé hier soir, et je pense que ça va très vite devenir un projet très concret, que en plus, l'utilisation de la 3D, par exemple, va pouvoir être un outil formidable pour développer ce type de ressources transversales. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Donc, je vous rappelle que l'UMVF est né donc en 2003, mais ça faisait suite notamment aux discussions et notamment aux initiatives d'Albert-Claude Benamou. Dès 2000, avec le premier IPM, donc à la Pitié-Salpêtrière, et chaque année depuis, donc il y a eu ces séances, et ensuite c'est devenu donc IP3S. Et en 2009, l'ensemble s'est transformé en UNF3S. Donc l'UMVF a réuni dès le départ toutes les facultés de médecine française. Et donc l'ensemble des universités ayant ces facultés de médecine. Donc je rappelle des évidences, mais c'est important de rappeler que l'UMVF n'est pas une université de substitution, c'est un portail donc universel pour l'enseignement numérique en présentiel et en distanciel. Pour la diffusion et le partage de la culture médicale avec des documents qui sont validés. Et surtout donc un accès gratuit, c'est un des points principal auquel on tient au niveau des quatre composantes. Alors le siège de l'UMVF est tout de même bien, comme de l'UNF3S, est bien réel puisqu'il est à l'île 2 à la faculté de médecine. Donc l'UMVF a été la première, ou presque la première, donc UNT, qui se sont mises en place depuis 2003 et maintenant donc il y a 7 UNT qui sont passés de l'ensemble de l'éducation maintenant à l'enseignement supérieur. Et je salue donc ici Madame Anne Boyer qui manage cet ensemble. L'UMVF entre dans la stratégie générale donc des UNT, mais il ne faut pas oublier, ainsi que l'a rappelé donc Madame Galland, donc les UNR et les espaces numériques de travail. Et il est très important donc de participer à la formation aux usages et aux usagers, que les enseignants, bien sûr, soient les premiers auprès des étudiants à les informer des différentes ressources. C'est une révolution donc universitaire majeure. L'enseignant n'est plus seulement créateur de compétences et dispensateur de savoir en amphithéâtre, mais il peut donc se consacrer à l'essentiel. Alors, le portail de l'UMVF a évolué, c'est déjà le deuxième portail qu'on aperçoit ici, et je vous annonce, et j'espère que ce sera le dernier, parce que c'est toujours un peu gênant de trop souvent changer le portail, il est en évolution actuellement pour le rendre mieux lisible, et ceci à la demande des étudiants, encore que celui-là avait déjà été donc réalisé avec les étudiants, et je salue donc les représentants de la NEF qui participent aux discussions régulièrement. Alors les ressources, elles se distinguent, on l'a dit, en campus disciplinaire. Et il y a eu une réunion donc récente de tous les responsables des collèges qui dirigent ces campus disciplinaires. Et c'est notamment Henri Jean-Philippe de Nantes qui est en charge de cette rubrique et qui vous en parlera donc demain. Les documents 3D, il y a eu bien sûr les premiers initiateurs, donc et je salue donc les sportifs, donc, et notamment M. Thirier, et les Lyonnais qui ont mis à disposition donc des documents 3D dans le domaine de l'appareil locomoteur. Et maintenant, ça se développe, et donc notamment au niveau de l'orthophonie. Donc il y a un document que je vous montrerai tout à l'heure. Il est important pour les étudiants donc d'avoir le maximum de dossiers cliniques pour s'entraîner aux ECN et à la lecture critique d'articles. Enfin, avec François Collère, ne pas oublier donc Canalu Médecine. Et là, il y a toute une série de ressources qu'il convient de charger et d'utiliser. Wikinu rassemble également des documents qui n'entrent pas dans les campus disciplinaires, mais c'est des documents qui sont également validés. C'est Marcel Spector qui dirige cette rubrique. Et on souhaite mettre en place donc des outils partagés par les comptes composantes pour réaliser donc ces documents. Les référentiels nationaux en médecine, il y en a 46. Ils vont être visités, certains le sont déjà. Donc c'est un ensemble de bibliothèques virtuelles qui est complètement gratuite et moissonnable, avec également des documents sonorisés. Il y a notamment l'ensemble des cours de Grenoble, de la PAES de Grenoble, depuis plusieurs années pour la médecine et maintenant donc déjà pour la pharmacie et l'odontologie. Je ne reviens pas sur le web des UNT, ne pas oublier, c'est un site très visité, 400 000 visites mensuelles et peut-être plus maintenant. Donc là, je suis anatomiste, donc je suis très heureux toujours de voir ce qui a été fait donc, par nos amis lyonnais. Et il faut savoir que ces documents ne servent pas seulement aux sportifs, mais servent également en anatomie médicale. Enfin, tout cela est supporté aussi par le site C2I Santé, où il y a toutes les ressources du C2I, niveau 1 et niveau 2. Et je salue donc Daniel Pagonis, qui est à l'origine de ce site. Enfin, nous parlerons donc demain de la simulation et des cas virtuels qui vont encore transformer notre site. Alors, je suis coincé. Alors, quelques mots de programmes internationaux. Ces actions internationales sont nombreuses. Tout d'abord, de nombreuses conventions et partenariats avec mise à disposition dans ces universités, ces facultés, de sites miroirs lorsque les flux ne sont pas suffisants. Je rappelle qu'il y a eu deux congrès déjà à l'étranger, à Tunis et à Marrakech. Il y a de nombreux séminaires de formateurs en numérique également, donc on en a fait à Shanghai. Des projets européens, et c'est François Collère surtout qui s'y est attelé avec Netadid, qui pour notre parti consistait à mettre en réseau à la fois la faculté de médecine de Cotonou, le centre de Huida et la faculté de médecine de Parakou. Mais il y a tout de même nombreuses difficultés pour que cela soit parfait. Et un nouveau projet européen, donc Sahel, dans lequel notre intervention n'est pas très importante, mais qui rappellera donc à Albert Claude, Tambacounda et son environnement. Les projets importants actuels sont le projet FSP Mère Enfant du ministère des Affaires étrangères et européennes, et plus récemment encore, un projet, donc on vient d'avoir la subvention va arriver dans les jours prochains, je crois, de 500 000 euros pour la première partie, pour la mise pour Haïti, et pour la reconstruction de Haïti. Le projet FSP Mère Enfant, donc, c'est la constitution d'un réseau de professionnels de santé compétents pour lutter contre les OMD et la mortalité et la morbidité maternelle et infantile dans 17 pays, notamment de la région subsaharienne, de Madagascar et de l'Asie du Sud-Est, avec mise en place de DU, ou formation complémentaire, pour l'Asie du Sud-Est. Le premier, ça a été l'échographie, et il y a un site qui est mère-enfant.org, qui est accessible, tous les éléments étant à disposition de tous, sous forme relativement simple, diaporama sonorisé, ce qui permet de les modifier, les adapter aux pays concernés. Avec des questions en ligne, et ça, il faut rendre hommage donc à l'équipe de Grenoble, et toujours à Daniel Pagonis et notamment Isabelle Perrin, qui ont la charge de ce qui est le plus difficile, donc c'est du suivi en ligne des questions-réponses. Le programme numérique pour Haïti, donc Haïti, on en parle régulièrement malheureusement, 4 facultés de médecine, un déficit de gouvernance, de nombreuses destructions. Il faut savoir que le corps enseignant est essentiellement contractuel. et un réseau Internet pas toujours facile. Il y a eu des destructions, notamment donc à la faculté de médecine de l'Université d'État de Haïti. Voici ce qu'il en reste. Les salles de cours qui sont actuellement donc persistantes, mais dans un état tout de même déplorable. Et il y a un projet, mais il y a encore des subventions qui doivent venir pour conforter ce projet. Le projet le plus avancé est celui de la reconstruction de l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince. Voici ce qu'il en reste. Il y a eu 90 élèves infirmières et 4 enseignants qui ont disparu dans l'effondrement de cette école d'infirmières. Et actuellement, cela se fait sous des tentes avec une 35 degrés à l'ombre. Vous imaginez donc les difficultés. Ce premier projet donc, devrait sortir et devrait être en place dès le mois de février. Et au-dessus, il y aura également l'école de sages-femmes et un espace où nous allons nous installer pour faire un campus numérique et une salle de visioconférence. Ceci fait suite aux nombreuses initiatives. Il y a en fait dans le domaine numérique 2 projets. Le projet PENDA pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et également de la formation des maîtres, en liaison surtout donc avec la UF et avec l'IRD. Et le deuxième projet, qui est porté donc par l'UNF3S, c'est le plan d'enseignement numérique présentiel à distance en faveur de la formation médicale et en santé, donc avec un budget de 2 fois 500 000 euros. Et on aura besoin de vous tous, puisqu'il y a également des mobilités à la fois nord-sud et du sud Haïti. Donc on parle du sud vers la France et les pays francophones, et on aura besoin donc de vous. J'oublie pas les filières francophones de Chine pour vous rappeler. Donc on a également on a une formation numérique qui s'est faite à Shanghai avec les universités qui ont des formations francophones, Kunming et Chongqing notamment. Wuhan n'était pas présent. Enfin, je termine avec cette diapositive pour vous annoncer la mise en place de l'espace numérique ouvert pour la Méditerranée, IOMED, sous l'initiative notamment de Gilbert Touzeau et d'autre part du président Benani d'Agadir. Et il devrait se mettre en place en janvier, 13 et 14 janvier, donc à Toulon, avec des communautés thématiques. Et il y a une communauté thématique santé que je coordonne avec le doyen Yazidi de Marrakech. Je vous remercie.